Joseph Conrad, Jeunesse, chapitre 1er. Cela n'aurait pu arriver qu'en Angleterre, où les hommes et la mer se pénètrent, pour ainsi dire, la mer entrant dans la vie de la plupart des hommes, et les hommes connaissant la mer, peu ou prou, par divertissement, par goût des voyages ou comme gagne-pain. Nous étions accoudés autour d'une table d'acajou qui réfléchissait la bouteille, les verres et nos visages. Il y avait là un directeur de compagnie, un comptable, un chef du contentieux, Marlowe et moi. Le directeur avait été à Conway, le comptable avait servi 4 ans à la mer, l'homme de loi, conservateur endurci, fidèle de la haute église, la crème des hommes et l'honneur incarné, avait été second à bord des navires de la compagnie péninsulaire et orientale, au bon vieux temps où les courriers avaient encore le gréement carré sur 2 mâts au moins, et descendait la mer de Chine devant une mousson fraîche, avec des bonnettes hautes et basses. Nous avions tous débuté dans la vie par la marine marchande. Le lien puissant de la mer nous unissait tous les 5, et aussi cette camaraderie du métier, qu'aucun enthousiasme, si vif qu'il puisse être, pour le yachting, les croisières ou autre chose de ce genre, ne peut faire naître, car tout cela n'est que le divertissement de la vie, tandis que l'autre, c'est la vie même. Marlowe, je crois du moins que c'est ainsi que s'écrivait son nom, nous faisait le récit, ou plutôt la chronique, d'un de ses voyages. Oui, j'ai bourlingué pas mal dans les mers d'Extrême-Orient, mais le souvenir le plus clair que j'en ai conservé, c'est celui de mon premier voyage. Il y a de ces voyages, vous le savez vous autres, qu'on dirait faits pour illustrer la vie même, et qui peuvent servir de symbole à l'existence. On se démène, on trime, on sue sang et eau, on se tue presque, on se tue même vraiment parfois à essayer d'accomplir quelque chose, et on n'y parvient pas. Ce n'est pas de votre faute. On ne peut tout simplement rien faire, rien de grand ni de petit, rien au monde, pas même épouser une vieille fille, ni conduire à son port de destination une malheureuse cargaison de 600 tonnes de charbon. Ce fut à vrai dire une affaire mémorable. C'était mon premier voyage en Extrême-Orient, et mon premier voyage comme lieutenant. C'était aussi le premier commandement de mon capitaine. Vous avouerez qu'il était temps. Il avait bel et bien 60 ans. C'était un petit homme au dos large, un peu courbé, avec des épaules rondes et une jambe plus arquée que l'autre. Il avait cet aspect quelque peu tordu qu'on voit fréquemment aux hommes qui travaillent au champ. Sa figure en casse-noisette, menton et nez essayant de se rejoindre devant une bouche rentrée, s'encadrait de flocons de poils gris de fer qui vous avaient l'air d'une mentonnière droite saupoudrée de poussière de charbon. Et l'on voyait dans ce vieux visage 2 yeux bleus étrangement semblables à ceux d'un jeune garçon, avec cette expression candide que certains hommes très ordinaires conservent jusqu'à la fin de leur jour, à la faveur intime et rare d'un cœur simple et d'une âme droite. Ce qui put l'engager à me prendre comme lieutenant reste pour moi un mystère. J'avais débarqué d'un de ces fameux clippers qui faisaient les voyages d'Australie et à bord duquel j'étais 3e officier, et il semblait avoir des préventions contre cette classe de voiliers comme trop aristocratique et distinguée. Vous savez, me dit-il, sur ce navire, vous aurez du travail. Je lui répondis que j'en avais eu sur tous les navires à bord desquels j'avais été. Oui, mais celui-ci est différent. Et vous autres, messieurs qui venez de ces grands navires, enfin, je crois que vous ferez l'affaire. Embarquez demain. J'embarquai le lendemain. Il y a de cela 22 ans, et j'avais tout juste 20 ans. Comme le temps passe. Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Imaginez-vous, lieutenant pour la première fois, officier réellement responsable. Je n'aurais pas donné mon nouveau poste pour tout l'or du monde. Le second m'examina attentivement. Il était vieux, lui aussi, mais d'une autre allure. Il avait un nez romain, une longue barbe d'une blancheur de neige, et se nommait Mahon, mais il tenait à ce qu'on prononçât Mann. Il était de bonne famille, mais il n'avait pas eu de chance, et il n'avait jamais pu avancer. Pour ce qui est du capitaine, il avait servi des années à bord de caboteurs, puis dans la Méditerranée, et enfin sur la ligne des Antilles. Il n'avait jamais doublé les caps. C'est tout juste s'il savait écrire, et il n'y tenait guère. Bien entendu, très bons marins l'un et l'autre, et entre ces 2 vieux-là, je me faisais l'effet d'un petit garçon entre ses deux grands-pères. Le navire aussi était vieux. Il s'appelait Judée. Drôle de nom, hein? Il appartenait à un certain Wilmer, Wilcox, quelque chose dans ce genre-là. Mais voilà 20 ans que l'homme a fait faillite et est mort, et son nom importe peu. La Judée était restée désarmée dans le bassin Shadwell pendant je ne sais combien de temps. Vous pouvez vous imaginer dans quel état elle était. Ce n'était que rouille, poussière, crasse, suie dans la mâture et saleté sur le pont. Pour moi, c'était comme si je sortais d'un palais pour entrer dans une chaumière en ruine. Elle jaugeait à peu près 400 tonnes, avait un gain d'eau primitif, des loquets de bois aux portes, pas le moindre morceau de cuivre, et son arrière était large et carré. On pouvait distinguer sous son nom, écrit en grandes lettres, un tas de fioritures dédorées et une espèce d'écusson qui surmontait la devise « Marche ou meurs ». Je me rappelle que cela me plut énormément. Il y avait là quelque chose de romanesque qui me fit tout de suite aimer cette vieille baille, quelque chose qui séduisit ma jeunesse. Nous quittâmes Londres sur l'est de sable, pour aller prendre du charbon dans un port du nord, à destination de Bangkok. Bangkok ! J'en tressaillais d'aise. Il y avait 6 ans que j'étais à la mer, mais je n'avais jamais vu que Melbourne et Sydney, des endroits très bien, des endroits charmants dans leur genre, mais Bangkok ! Nous mîmes à la voile pour sortir de la Tamise, avec un pilote de la mer du Nord à bord. Il se nommait Jamin, et il traînait toute la journée aux abords de la cuisine pour faire sécher son mouchoir devant le fourneau. Apparemment, il ne fermait jamais l'œil. C'était un homme triste, qui ne cessait d'avoir la goutte au nez, et qui avait eu des ennuis, ou en avait, ou allait en avoir. Il ne pouvait être heureux, à moins que quelque chose n'allât mal. Il se défiait de ma jeunesse, de mon jugement, et de mon sens de la manœuvre, et il se fit un devoir de me le manifester de 100 façons. J'avoue qu'il avait raison. Il me semble que je n'en savais pas lourd alors, que je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui. Mais je n'ai jamais cessé jusqu'à ce jour de détester ce Jamin. Il nous fallut une semaine pour gagner la rade de Yarmouth, et là nous attrapâmes un coup de tabac, la fameuse tempête d'octobre d'il y a 22 ans. Vent, éclair, neige fondue, mer démontée, tout y était. Nous naviguions à l'ège, et vous pourrez imaginer à quel point c'était vilain quand je vous aurais dit que nous avions nos pavois démolis et notre pont inondé. Le second soir, le lest ripa dans la joue avant, et à ce moment nous avions été dépalés dans les parages de Dogger Bank. Il n'y avait rien d'autre à faire que de descendre avec des pelles et d'essayer de redresser le navire. Et nous voilà dans cette vaste cale, sinistre comme une caverne, des chandelles tremblotantes collées aux barreaux, tandis que la tempête hurlait là-haut et que le navire dansait comme un fou avec de la bande. Nous étions tous là, Jamin, le capitaine, tous, pouvant à peine nous tenir sur nos jambes, occupés à cette besogne de fossoyeurs et essayant de refouler au vent des pelletées de ce sable mouillé. À chaque plongeon du navire, on voyait vaguement dans la pénombre dégringoler des hommes qui brandissaient des pelles. Un de nos mousses, nous en avions deux, impressionné par l'étrangeté de la scène, pleurait comme si son cœur allait se rompre. On l'entendait renifler quelque part dans l'ombre. Le 3e jour, la tempête cessa, et un remorqueur du Nord qui passait par là nous ramassa au passage. Il nous avait fallu 16 jours en tout pour aller de Londres à la Tyne. Quand nous fûmes au dock, nous avions perdu notre tour de chargement, et on nous déhala jusqu'à un rang où nous restâmes 1 mois. Mrs. Beard, le capitaine s'appelait Beard, vint de Colchester pour voir son mari. Elle s'installa à bord. L'équipage temporaire avait débarqué, et il ne restait que les officiers, un mousse et le steward, un mulâtre qui répondait au nom d'Abraham. Mrs. Beard était une vieille femme à la figure toute ridée et hâlée comme une pomme d'hiver, et qui avait une tournure de jeune fille. Elle me surprit un jour en train de recoudre un bouton, et insista pour réparer toutes mes chemises. Ce n'était guère le genre des femmes de capitaine que j'avais connues à bord des clippers. Quand je lui eus apporté les chemises, elle me dit « Eh bien, et les chaussettes ? Elles ont besoin d'un raccommodage, j'en suis sûr. Les effets de John, le capitaine Beard, sont tous en état maintenant. J'aimerais avoir quelque chose à faire. » Brave vieille ! Elle passa en revue mes effets et pendant ce temps-là, je lus pour la première fois Santer Resantus et La chevauchée vers qui va de Burnaby. Je ne compris guère alors le premier de ces livres, mais je me rappelle qu'à cette époque-là, je préférais le soldat au philosophe, préférence que la vie n'a fait que confirmer. L'un était un homme, l'autre était davantage, ou moins. L'un et l'autre sont morts, et Mrs. Beard est morte, et la jeunesse, la force, le génie, les pensées, les exploits, les cœurs simples, tout meurt enfin. On finit par nous charger. Nous embarquâmes un équipage, 8 matelots et 2 mousses. Un soir, nous nous déhalâmes sur les bouées près du sas, prêts à sortir, et avec un bon espoir d'appareiller le lendemain. Mrs. Beard devait repartir chez elle par le dernier train. Une fois le navire amarré, nous descendîmes prendre le thé, et nous demeurâmes assez silencieux durant tout ce temps, Mahon, le vieux couple et moi. J'eus fini le premier, et m'esquivai pour aller fumer une cigarette, ma cabine se trouvant dans un rouf tout contre la dunette. C'était l'heure du plein, le vent avait fraîchi, il brunait. Les deux portes du sas étaient ouvertes, et les charbonniers allaient et venaient dans l'obscurité, avec leur feu très clair, au milieu d'un grand bruit d'hélices battant l'eau, d'un ferraillement de treuil, et de voix qui hélaient au bout des jetées. J'observais la procession des feux de pointe qui glissaient en haut et celle des feux verts qui glissaient plus bas dans la nuit, lorsque tout à coup j'aperçus un éclat rouge qui disparut, revint et resta. L'avant d'un vapeur surgit tout proche. Par la claire-voie de la cabine, je criai « Montez vite !» Puis j'entendis une voix effrayée qui disait au loin dans l'ombre « Stoppez, capitaine !» La sonnerie d'un timbre résonna. Une autre voix cria pour avertir « Nous allons rentrer dans ce voilier !» Un rude « Ça va ?» y répondit et fut suivi d'un violent craquement au moment où le vapeur vint de sa joue avant taper de biais dans notre gréement. Il y eut un moment de confusion, de vociférations, un bruit de gens qui couraient. La vapeur siffla, puis on entendit quelqu'un qui disait « Parez, capitaine !»« Vous n'avez rien ?» demanda la voix bourrue. J'avais couru devant pour voir l'avarie, et je leur criais « Je crois que non !» En arrière, doucement, dit la voix bourrue. Un timbre retentit. « Quelle est ce vapeur ?» hurla Mahon. À ce moment, il n'était plus pour nous qu'une ombre massive, manœuvrant à quelque distance. On nous cria un nom de femme, Miranda ou Mélissa, ou quelque chose de ce genre. « Ça va nous faire encore un mois dans ce sale trou, » me dit Mahon, comme nous examinions avec des fanaux, les pavois éclatés et les bras coupés. « Mais où est donc le capitaine ?» Nous ne l'avions tout ce temps-là ni vu ni entendu. Nous allâmes voir derrière. Une voix dolente s'éleva du milieu du bassin. « Judée ! Ohé ! » Comment diable se trouvait-il là ? Nous criâmes. « Oui ! Je suis à la dérive dans notre canot, sans aviron !» nous cria-t-il. Un batelier attardé nous offrit ses services, et Mahon s'arrangea avec lui, moyennant une demi-couronne, pour remorquer notre capitaine au long du bord. Mais ce fut Mrs. Beard qui monta la première à notre échelle. Il y avait près d'une heure qu'ils étaient là à flotter dans le bassin, sous une froide petite pluie fine. Je n'ai jamais de ma vie été aussi surpris. Il paraît que lorsqu'il m'avait entendu crier « Montez vite !», il avait aussitôt compris ce qui se passait. Il avait empoigné sa femme, grimpé sur le pont qu'il avait traversé en courant pour dégringoler dans le canot amarré à l'échelle. Pas si mal pour un homme de 60 ans. Imaginez un peu ce vieux sauvant héroïquement sa femme dans ses bras, la femme de toute sa vie. Il l'avait déposée sur un banc et s'apprêtait à remonter à bord quand, je ne sais comment, la bosse fila. Et les voilà partis ensemble. Naturellement, au milieu de toute cette confusion, nous ne l'avions pas entendu crier. Il avait l'air tout penaud. Elle s'écria d'un air enjoué « Je suppose que cela ne fait rien si je manque le train maintenant. »« Non, Jenny, descends te réchauffer, » grommela-t-il, puis s'adressant à nous. « Un marin ne devrait pas s'embarrasser de sa femme. »« Voyez-vous ça, je n'étais pas à bord. »« Bon, il n'y a pas trop de mal cette fois. Allons voir ce que cette idiote vapeur nous a démoli. » Ce n'était pas grand-chose, mais cela nous retint tout de même 3 semaines. Au bout de ce temps, le capitaine étant occupé avec ses agents, je portai le sac de voyage de Mrs. Beard jusqu'à la gare et l'installai confortablement dans un compartiment de 3e classe. Elle abaissa la vitre pour me dire « Vous êtes un brave jeune homme. Si vous voyez John, le capitaine Beard, sans son foulard la nuit, rappelez-lui de ma part de bien s'en mitoufler. « Certainement, Mrs. Beard, lui dis-je. Vous êtes un brave jeune homme. J'ai remarqué combien vous étiez attentionné pour John, le capitaine. Le train démarra soudain. Je saluai la vieille dame. Je ne l'ai plus jamais revue. Passez-moi la bouteille. » Nous prîmes la mer le lendemain. Quand nous partîmes ainsi pour Bangkok, il y avait 3 mois que nous avions quitté Londres. Nous avions pensé mettre une quinzaine tout au plus. C'était en janvier et le temps était magnifique. Ce beau temps d'hiver ensoleillé qui a plus de charme que le beau temps d'été, parce qu'il est plus inattendu, plus vif, et qu'on sait qu'il ne va pas, qu'il ne peut pas durer longtemps. C'est comme une aubaine, une bonne fortune, une chance inespérée. Cela dura tout le long de la mer du Nord, tout le long de la Manche. Cela dura jusqu'à 300 000 environ à l'ouest du Cap Lizard. Alors le vent tourna au surroît et commença sa musique. 2 jours plus tard, il soufflait en tempête. La Judée se vautrait dans l'Atlantique comme une vieille caisse à chandelles. Il souffla jour après jour, il souffla méchamment, sans arrêt, sans merci, sans relâche. Le monde n'était plus qu'une immensité de vagues écumantes qui se ruaient sur nous, sous un ciel si bas qu'on aurait pu le toucher de la main, et sale comme un plafond enfumé. Dans l'espace bouleversé qui nous environnait, il y avait autant d'embrun que d'air. Jour après jour, nuit après nuit, il n'y eut autour du navire que le hurlement du vent, le tumulte de la mer, le bruit de l'eau tombant en trombe sur notre pont. Il n'y eut ni repos pour lui, ni repos pour nous. Il ballottait, il tanguait, il piquait du nez, il plongeait de l'arrière, il roulait, il gémissait. Et il nous fallait nous cramponner quand nous étions sur le pont, nous agripper à nos couchettes quand nous étions en bas, dans un effort physique et une tension d'esprit qui ne nous donnait pas de cesse. Une nuit, Mahon m'interpella par la vitre de ma cabine. Elle ouvrait sur ma couchette. J'y étais étendu, tout habillé, tout chaussé, avec l'impression de n'avoir pas dormi depuis des années et de ne pouvoir le faire si je m'y efforçais. Il me dit avec animation, « Vous avez la tige de sonde, Marlowe ? Je ne peux pas amorcer les pompes. Sacré Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. » Je lui passai la sonde et me recouchai, essayant de penser à des tas de choses, mais je ne pensais qu'aux pompes. Quand je vins sur le pont, ils y travaillaient encore, et ma bordée vint les relever. À la lueur du fanal qu'on avait apporté pour examiner la sonde, j'entrevis des visages graves et las. Nous passâmes les 4 heures entières à pomper. Nous pompâmes tout le jour, toute la nuit, toute la semaine, quart après quart. Le navire se déliait et faisait de l'eau dangereusement, pas au point de nous noyer immédiatement, mais assez pour nous tuer à manœuvrer les pompes. Et tandis que nous pompions, le navire nous lâchait par morceaux. Les pavois partirent, les épontilles furent arrachées, les manches à air écrasées, la porte de la cabine sauta. Le navire n'avait plus un pouce de sec, il se vidait peu à peu. Notre grand canot, comme par magie, fut réduit en miettes à sa place même sur ses chantiers. Je l'avais saisi moi-même, et j'étais assez fier de mon ouvrage qui avait défié si longtemps la malignité de la mer. Et nous pompions, et la tempête ne cessait de faire rage. La mer était blanche comme une nappe d'écume, comme un chaudron de lait qui bout. Pas d'éclaircie parmi les nuages, pas même un trou grand comme la main, pas même l'espace de 10 secondes. Il n'y avait pas pour nous de ciel, il n'y avait pour nous ni étoiles, ni soleil, ni univers, rien que des nuages en courroux et une mer en fureur. Quart après quart, nous pompions pour sauver nos vies, et cela sembla durer des mois, des années, toute une éternité, comme si nous eussions été des morts condamnés à quelque enfer pour marins. Nous oubliâmes le jour de la semaine, le nom du mois, quelle année l'on était, et jusqu'au souvenir de n'avoir jamais été à terre. Les voiles partirent. Le navire était en travers au vent sous un bout de toile. L'océan nous dégringolait dessus et nous n'y prenions plus garde. Nous manœuvrions les bras des pompes et nous avions des regards d'idiots. Quand nous avions réussi à ramper sur le pont, j'entourais d'un filin les hommes, les pompes et le grand mât, et nous pompions sans relâche, avec de l'eau jusqu'à la ceinture, jusqu'au cou, jusque par-dessus la tête. C'était du pareil au même. On avait oublié ce que c'était que d'être sec. Et j'avais quelque part en moi cette pensée, « Ça, ma foi, c'est une sacrée aventure, comme on en lit dans les livres. Et c'est mon premier voyage comme lieutenant. Et je n'ai que 20 ans. Et je tiens bon, tout autant que n'importe lequel de ces hommes, et je garde mes gens d'attaque. J'étais content. Je n'aurais pas renoncé à cette expérience pour un empire. Il y avait des moments où j'exultais véritablement. Quand cette vieille coque démantelée piquait du nez lourdement, l'arrière dressée en l'air, il me semblait qu'elle lançait comme un appel, comme un défi, comme un cri vers ces nuages impitoyables, les mots inscrits sur sa poupe, « Judée, Londres, marche ou meurs !» Oh, jeunesse, quelle force elle a, quelle foi, quelle imagination! Pour moi, ce navire, ce n'était pas une vieille guimbarde charriant par le monde un tas de charbon en guise de frais, c'était l'effort, l'essai, l'épreuve de la vie. J'y pense avec plaisir, avec affection, avec regret, comme on pense à un mort que l'on aurait chéri. Je ne l'oublierai jamais. Passez-moi la bouteille. Une nuit qu'attachée au mât, comme je l'ai expliqué, nous continuions à pomper, assourdis par le vent, et n'ayant même plus en nous assez de courage pour souhaiter notre mort, un paquet de mer déferla sur le pont et nous passa dessus. À peine eussé-je repris mon souffle, que je me mis à crier, avec l'instinct du devoir, « Tenez bon, les gars !» quand soudain je sentis quelque chose de dur qui flottait sur le pont me heurter le mollet. J'essayais de m'en emparer, mais je n'y parvins pas. Il faisait si noir qu'on ne se voyait pas les uns les autres à deux pas. Après ce choc, le navire demeura un moment immobile, et la chose revint heurter ma jambe. Cette fois, je pus la saisir. C'était une casserole. Tout d'abord abruti de fatigue, et ne pouvant penser à rien d'autre qu'aux pompes, je ne compris pas ce que j'avais dans la main. Mais tout d'un coup, je me rendis compte et m'écriai « Dites-moi, les gars, l'euro fait partie. Lâchons cela et allons voir où est le coq. » Il y avait à l'avant un rouf qui contenait la cuisine, la couchette du cuisinier et le poste d'équipage. Comme on s'attendait depuis des jours à le voir emporter, les hommes avaient reçu l'ordre de coucher dans le salon, le seul endroit sûr du navire. Le steward, Abraham, persistait toutefois à se cramponner à sa couchette, stupidement, comme une mule, par pure terreur, je crois, comme un animal qui ne veut pas quitter une étable qui s'écroule pendant un tremblement de terre. Nous allâmes à sa recherche. C'était risquer la mort, car une fois hors de notre amarrage, nous étions aussi exposés que sur un radeau. Nous y allâmes tout de même. Le rouf était démoli comme si un obus avait éclaté dedans. Presque tout avait passé par-dessus bord, le fourneau, le poste d'équipage, toutes leurs affaires, tout était parti. Mais deux épontilles, qui maintenaient une partie de la cloison à laquelle était fixée la couchette d'Abraham, restaient comme par miracle. Nous tâtonnâmes parmi les ruines et nous trouvâmes Abraham. Il était là, assis sur sa couchette, au beau milieu de l'écume et des épaves, à bredouiller gaiement en se parlant à lui-même. Il avait perdu la tête. Il était devenu bel et bien fou et pour de bon, après ce choc soudain qui avait eu raison de ce qui lui restait d'endurance. On l'empoigna, on le traîna derrière, et on le précipita la tête première par l'échelle de la cabine. On n'avait pas le temps, voyez-vous, de le descendre avec des précautions infinies, ni d'attendre pour savoir comment il allait. Ceux qui étaient en bas sauraient bien le ramasser au pied de l'échelle. Nous étions très pressés de retourner aux pompes. Cela, ça ne pouvait pas attendre. Une mauvaise voie d'eau est chose impitoyable. C'est à croire que le seul dessein de cette diabolique tempête avait été de rendre fou ce pauvre diable de mulâtre. Elle mollit avant le matin, et le lendemain, le ciel se dégagea. Et la mer s'apaisant, la voie d'eau diminua. Quand on put établir un nouveau jeu de voile, l'équipage demanda à retourner. Et il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. Les embarcations parties, les ponts balayés, la cabine éventrée, les hommes n'ayant à se mettre que ce qu'ils avaient sur le dos, les provisions gâtées, le navire éreinté. Nous virâmes de bord pour rentrer. Eh bien, le croiriez-vous, le vent passa à l'est et nous vint droit sur le nez. Il souffla frais, il souffla sans répit. Il nous fallut lui disputer chaque pouce du chemin. Heureusement, le navire ne faisait pas autant d'eau, la mer restant relativement calme. Pomper 2 heures sur 4 n'est pas une plaisanterie, mais cela tint le navire à flot jusqu'à Falmouth. Les bonnes gens qui habitent là vivent des sinistres maritimes et sans aucun doute nous virent arriver avec plaisir. Une horde affamée de charpentiers de navires affûta ses outils à la vue de cette carcasse de navire. Et certes, ils se firent de jolis bénéfices à nos dépens avant d'en avoir fini. J'imagine que l'armateur était déjà dans le mauvais drap. Les choses traînèrent, puis on décida de débarquer une partie du chargement et de calfater la coque, ce qui fut fait. On acheva les réparations, on rechargea, et un nouvel équipage embarqua et nous partîmes pour Bangkok. Avant la fin de la semaine, nous revenions. L'équipage avait déclaré qu'il n'irait pas à Bangkok, c'est-à-dire une traversée de 150 jours, dans une espèce de rafio où il fallait pomper 8 heures sur 24. Et les journaux maritimes insérèrent de nouveau le petit paragraphe « Judé, trois mâts barque, de la Tyne pour Bangkok, charbon, rentré à Falmouth avec une voie d'eau, équipage refusant le service. » Il y eut encore des retards, d'autres rafistolages. L'armateur vint passer une journée et déclara que le navire était en parfait état. Le pauvre capitaine Beat avait l'air d'un fantôme de capitaine par suite de l'ennui et de l'humiliation de tout cela. Rappelez-vous qu'il avait 60 ans et que c'était son premier commandement. Mahon affirmait que c'était une aventure absurde et que ça finirait mal. Quant à moi, j'aimais le navire plus que jamais et je mourais d'envie d'aller à Bangkok. Nom magique, nom béni. Mésopotamie n'était rien à côté. Rappelez-vous que j'avais 20 ans, que c'était mon premier voyage comme lieutenant et que tout l'Orient m'attendait. Nous sortîmes pour mouiller en grande rade avec un nouvel équipage, le troisième. Le navire faisait eau pis que jamais. C'était à croire que ces charpentiers de malheur y avaient fait un trou. Cette fois-là, nous ne quittâmes même pas la rade. L'équipage refusa tout bonnement de virer le guindeau. On nous remorqua dans le fond du port et nous devînmes un meuble, une particularité, une institution de l'endroit. Les gens nous montraient du doigt aux visiteurs en disant « Ce trois mâts que vous voyez là, en partance pour Bangkok, voilà 6 mois qu'il est là. Il est rentré 3 fois. » Les jours de congé, les gamins qui se promenaient dans les canaux nous hélaient « Oh, de la Judée !» Et si une tête se montrait au-dessus de la lisse, ils criaient « Où c'est que vous allez ? À Bangkok ?» Et ils se moquaient de nous. Nous n'étions que 3 à bord. Le pauvre vieux patron broyait du noir dans sa cabine. Mahon s'était chargé du soin de faire la cuisine et il déploya inopinément tout le génie d'un Français dans la confection de bons petits plats. Moi, je m'occupais nonchalamment du gréement. Nous étions devenus des citoyens de Falmouth. Tous les boutiquiers nous connaissaient. Chez le coiffeur ou le marchand de tabac, on nous demandait familièrement « Croyez-vous que vous finirez par arriver à Bangkok ?» Pendant ce temps, l'armateur, les assureurs et les affréteurs se chamaillaient à Londres et notre solde courait toujours. Passez-moi la bouteille. C'était abominable. Moralement, c'était pire que de pomper pour sauver sa peau. On eût dit que le monde entier nous avait oubliés, que nous n'appartenions à personne, que nous n'arriverions jamais nulle part. On eût dit que par l'effet d'une malédiction, nous étions condamnés à jamais à vivre dans ce fond de peur, en but à la risée de générations de dockers oisifs et de bateliers malhonnêtes. J'obtins 3 mois de solde et 5 jours de congé et me précipitai à Londres. Cela me prit 1 jour pour y aller et près d'un autre pour en revenir, mais mes 3 mois de solde n'en filèrent pas moins. Je ne sais trop ce que j'en fis. J'allais, je crois, au Music Hall. Je déjeunais, dînais, soupais dans un endroit chic de Regent Street et je revins à l'heure dite sans avoir rien d'autre à montrer pour prix de mes 3 mois de travail que les œuvres complètes de Byron et une couverture de voyage toute neuve. Le batelier qui me ramena à bord me dit « Ah bah, je croyais que vous aviez quitté cette vieille barque. Elle n'ira jamais à Bangkok. » « Vous avez vu ça, vous ?» lui dis-je avec dédain, mais cette prophétie ne me disait rien de bon. Soudain, un homme, un agent de je ne sais qui, survint muni de plein pouvoir. Il avait un visage qui bourgeonnait, une énergie indomptable. C'était un fort joyeux luron. Nous rentrâmes d'un bond dans la vie. Un chaland vint le long du bord, prit notre chargement et nous allâmes en cale sèche pour enlever notre doublage en cuivre. Rien d'étonnant à ce que cette barque fit haut. Harcelée par la tempête au-delà de ses forces, la pauvre avait, comme de dégoût, craché l'étoupe qui garnissait ses membrures. On la recalfata, on la rendit aussi étanche qu'une bouteille. Nous retournâmes au chaland et on remit la cargaison à bord. Alors, une nuit, par un beau clair de lune, tous les rats quittèrent le navire. Nous en avions été infestés. Ils avaient détruit nos voiles, consommé plus de provisions que l'équipage, partagé bienveillamment nos lits et nos dangers, et maintenant que le navire était fin prêt, ils avaient décidé de décamper. J'appelai Mahon pour jouir du spectacle. Rat après rat, on les vit paraître sur notre lisse, jeter un dernier coup d'œil par-dessus leur épaule et tomber avec un bruit sourd dans le chaland vide. Nous essayâmes d'en faire le compte, mais nous ne tardâmes pas à nous embrouiller. Mahon s'écria, « Eh bien, qu'on ne vienne plus me parler de l'intelligence des rats. Ils auraient dû partir avant, quand nous étions à deux doigts de couler. Cela vous prouve combien est stupide la superstition qu'on attache à eux. Les voilà qui lâchent un bon navire pour un vieux chaland, et où il n'y a rien à manger, en outre, les imbéciles. Je ne crois pas qu'ils sachent ce qui est sûr ou bon pour eux, pas plus que vous ou moi. » Et après quelques considérations à ce sujet, nous convînmes que la sagesse des rats avait été grandement exagérée et qu'en fait, elle ne dépassait pas celle des hommes. L'histoire du navire, à cette époque, était connue de toute la côte, depuis le cap Land's End jusqu'à Forlands, et sur toute la côte, il n'y eut pas moyen de dénicher un équipage. On nous en envoya un au complet de Liverpool, et nous partîmes une fois de plus pour Bangkok. Nous eûmes bonne brise et mer calme jusqu'au tropique, et notre vieille Judée se traîna K1K dans le soleil. Quand elle filait 8 nœuds, tout craquait dans la mâture, et nous attachions nos casquettes sur nos têtes, mais d'ordinaire elle se prélassait à raison de 3 000 à l'heure. Que pouvait-on en attendre? Elle était fatiguée, cette vieille barque. Sa jeunesse était là, où est la mienne, où est la vôtre, vous autres qui écoutez cette interminable histoire. Et quel ami oserait vous reprocher vos années et vos fatigues? On ne grognait pas après elle. Nos autres officiers, en tout cas, ils nous semblaient être nés, avoir été élevés, avoir vécu à son bord depuis des siècles, n'avoir jamais connu d'autres navires. Je n'aurais pas davantage reproché à la vieille église de mon village de n'être pas une cathédrale. Et quant à moi, il y avait en outre ma jeunesse pour me rendre patient. J'avais tout l'Orient devant moi, et toute la vie et la pensée que c'était sur ce navire que j'avais subi mon épreuve et que je m'en étais tiré à mon honneur. Et je songeais aux hommes d'autrefois qui, bien des siècles auparavant, avaient eux aussi suivi cette même route sur des navires qui ne naviguaient pas mieux pour aller au pays des palmes et des épices et des sables jaunes et des peuplades brunes que gouvernaient des rois plus cruels que Néron le Romain et plus magnifiques que Salomon le Juif. La vieille barque se traînait, alourdie par l'âge et le fardeau de son chargement, tandis que moi je vivais la vie de la jeunesse, dans l'ignorance et dans l'espoir. Elle se traîna ainsi pendant une interminable procession de jours. Et sa dorure neuve renvoyait ses reflets au soleil couchant et semblait calmer sur la mer assombrie les mots peints sur sa poupe « Judée, Londres, marche ou meurt ». Nous entrâmes dans l'océan Indien et fîmes route au nord pour la pointe de Java. Nous avions de petites brises. Les semaines passaient. La Judée se traînait, marche ou meurt, et on commençait chez nous à se dire qu'il fallait nous porter en retard. Un certain samedi que je n'étais pas de quart, les hommes me demandèrent 1 ou 2 seaux d'eau supplémentaires pour laver leur linge. Comme je n'avais pas envie, à cette heure tardive, de monter la pompe à eau douce, j'allais devant en sifflotant et la clé à la main pour ouvrir l'écoutille du pic avant et tirer de l'eau de la caisse de réserve que nous tenions à cet endroit. L'odeur qui monta d'en dessous fut aussi inattendue qu'abominable. On eût dit que des centaines de lampes à pétrole flambaient et fumaient dans ce trou depuis des jours. Je m'empressai de sortir. L'homme qui m'accompagnait se mit à tousser et me dit « Drôle d'odeur, monsieur Marlowe !» Je répondis négligemment « On dit que c'est bon pour la santé. » Et j'allai derrière. Mon premier soin fut de passer la tête par le trou carré de la manche à air milieu. Comme je levais la tape, une haleine visible, quelque chose comme un léger brouillard, une bouffée de brume, s'échappa de l'ouverture. L'air qui s'en exhalait était chaud et avait une odeur lourde de suie et de pétrole. Je la reniflai et laissai retomber la tape doucement. C'eût été inutile de m'asphyxier. La cargaison était en feu. Le lendemain, le navire se mit à fumer pour de bon. Voyez-vous, il fallait s'y attendre, car, de si bonne qualité que fût ce charpon, il avait été tellement manipulé, tellement brisé par les transbordements, qu'il ressemblait plus à du charbon de forge qu'à quoi que ce fût d'autre. Et puis, il avait été mouillé plus souvent qu'à son tour. Il avait plu tout le temps que nous l'avions retransporté du chaland. Et maintenant, au cours de cette longue traversée, il s'était échauffé, et c'était un nouveau cas de combustion spontanée. Le capitaine nous fit appeler dans sa cabine. Il avait étalé une carte sur la table et avait un air malheureux. « La côte occidentale d'Australie n'est pas loin, nous dit-il, mais j'entends faire route pour notre destination. C'est le mois des cyclones avec ça. Mais nous garderons le cap tout simplement sur Bangkok et nous combattrons l'incendie. J'en ai assez de retourner, même si nous devons tous rôtir. Nous allons d'abord essayer d'étouffer par le manque d'air cette satanée combustion. » On essaya. On aveugla toutes les ouvertures et la fumée n'en continua pas moins. Elle ne cessait de sortir par d'imperceptibles fissures, elle se frayait un passage à travers les cloisons et les panneaux, elle filtrait ici et là, partout, en minces volutes, en buées invisibles, d'incompréhensibles façons. Elle s'introduisait dans le carré, dans le gaillard. Elle empoisonnait les endroits les plus abrités du pont. On pouvait en sentir l'odeur du haut de la grande vergue. Si la fumée sortait, il était évident que l'air entrait. C'était décourageant. Cette combustion-là refusait absolument de se laisser étouffer. Nous résolûmes d'essayer l'eau et nous retirâmes les panneaux. D'énormes flocons de fumée blanchâtre, jaunâtre, épaisse, grasse, fluide, suffocante, s'élevèrent jusqu'au sommet des mâts. Tous les hommes décampèrent à l'arrière. Puis le nuage empesté se dissipa au loin et nous nous remîmes à l'œuvre dans une fumée qui maintenant n'était guère plus épaisse que celle d'une cheminée d'usine ordinaire. On arma la pompe, on adapta la manche, et peu après, celle-ci creva. Que voulez-vous, elle était du même âge que le navire. C'était un tuyau préhistorique et irréparable. Alors on pompa avec la piètre pompe d'étrave, on puisa de l'eau avec des seaux, et on parvint ainsi à la longue à déverser des quantités considérables d'océan Indien par le grand panneau. Le clair ruisseau étincelait au soleil, tombait dans une couche de fumée blanche et rampante, et disparaissait à la surface noire du charbon. De la vapeur montait, mêlée à la fumée. Nous versions de l'eau salée comme dans un tonneau sans fond. Il était dit que nous aurions à pomper sur ce navire, pomper pour le vider, pomper pour le remplir. Et après avoir empêché l'eau d'y pénétrer pour échapper à une noyade, nous y versions de l'eau avec frénésie pour n'y être pas brûlés vifs. Et il continuait à se traîner, marche ou crève, par ce temps limpide. Le ciel était un miracle de pureté, un miracle d'azur. La mer était lisse, était bleue, était limpide, était scintillante comme une pierre précieuse qui s'étendait de toutes parts autour de nous jusqu'à l'horizon, comme si le globe terrestre tout entier n'eût été qu'un joyau, qu'un saphir colossal, qu'une gemme unique façonnée en planète. Et sur l'étendue lustrée de cette eau calme, la Judée glissait imperceptiblement, enveloppée de vapeurs impures et languissantes, d'un nuage nonchalant qui dérivait au souffle d'un vent lent et léger, nuage empesté qui souillait la splendeur de la mer et du ciel. Il va sans dire que pendant tout ce temps-là, nous ne vîmes pas de flammes. Le feu couvait dans la cargaison, à fond de cale, quelque part. Comme nous travaillions côte à côte, Mahon me dit avec un singulier sourire, « À présent, si l'on pouvait seulement avoir une bonne petite voie d'eau, comme la première fois que nous sommes sortis de la Manche, ça mettrait l'éteignoir sur cet incendie, hein ?» Je lui répondis par cette remarque ironique, « Vous vous souvenez des rats ?» Nous combattions le feu et naviguions avec soin comme si de rien n'était. Des 12 hommes, 8 étaient à l'ouvrage, tandis que 4 se reposaient. Chacun à son tour, y compris le capitaine. L'égalité régnait, et à défaut d'une complète fraternité, une franche camaraderie. Parfois, en envoyant un seau d'eau par le panneau, on entendait un homme hurler « Vive Bangkok !» et les autres se mettaient à rire. Mais, en général, nous restions taciturnes et graves. Et nous avions soif. Ah, quelle soif! Et il nous fallait économiser l'eau. De strictes rations. Le navire fumait, le soleil flamboyait. Passez-moi la bouteille. On essaya de tout. On essaya même de creuser jusqu'au foyer de l'incendie. Ça ne servait naturellement à rien. Personne ne pouvait rester en bas plus d'une minute. Mahon, qui est descendu le premier, s'évanouit dans la cale, et l'homme qui alla le chercher en fit autant. Nous les hissâmes sur le pont. Je sautai en bas pour leur montrer comme c'était facile. Mais alors, ils avaient appris la sagesse, et ils se contentèrent de me repêcher, au moyen d'un grappin fixé, si je ne me trompe, au bout d'un manche à balai. Je ne proposais pas d'aller rechercher ma pelle qui était restée en bas. Les choses commençaient à prendre mauvaise tournure. On mit le grand canot à la mer. La seconde embarcation était parée à mettre en dehors. Nous en avions encore une autre, de quelque 14 pieds de long, au bossoir arrière, où elle ne risquait rien. Alors, imaginez-vous que la fumée, tout d'un coup, diminua. Nous redoublâmes d'efforts pour noyer le fond du navire. Au bout de 2 jours, il n'y eut plus trace de fumée. Tout le monde rayonnait. C'était un vendredi. Le samedi, pas de corvée, mais, bien entendu, on tint la route. Pour la première fois depuis 15 jours, les hommes lavèrent leur linge et se débarbouillèrent. Et on leur donna un dîner soigné. Ils parlaient en termes méprisants de combustion spontanée, et ils donnaient à entendre qu'ils étaient, eux, des gars à éteindre les incendies. En fin de compte, il nous semblait à tous avoir hérité chacun une grosse fortune, mais une horrible odeur de brûlé empestait le navire. Le capitaine Beard avait les yeux caves et les joues creuses. Je n'avais jamais autant remarqué auparavant combien il était tordu et courbé. Lui et Mahon rôdaient gravement aux abords des panneaux et des manches à air, tout en reniflant. Je fus soudain frappé de voir que Mahon était un très très vieux bonhomme. Quant à moi, j'étais aussi satisfait et aussi fier que si j'avais contribué à gagner une grande bataille navale. Oh, jeunesse ! La nuit fut belle. Au matin, un navire qui rentrait en Angleterre passa à l'horizon, les mâts seuls en étaient visibles. C'était le premier que nous eussions vu depuis des mois. Mais nous approchions enfin de la terre, le détroit de la Sonde n'étant plus guère qu'à 190 milles et presque droit dans le nord. Le lendemain, j'avais le quart sur le pont de 8 à midi. Au déjeuner du matin, le capitaine avait fait remarquer combien cette odeur persistait dans le carré. Vers 10 heures, le second étant monté sur la dunette, je descendis sur le pont un moment. L'établi du charpentier se trouvait derrière le grand mât. Je m'y appuyai tout en tirant sur ma pipe, et le charpentier, un tout jeune homme, vint me parler. « Je trouve, dit-il, que nous nous en sommes très bien tirés, n'est-ce pas ?» Et je m'aperçus avec quelque agacement que l'imbécile cherchait à faire basculer l'établi. « Ne faites donc pas cela, lui dis-je. » Et au même moment, j'eus conscience d'une sensation bizarre, d'une absurde illusion. Il me sembla, je ne sais comment, que j'étais suspendu en l'air. Il me sembla entendre autour de moi comme un souffle retenu qui s'exhale, comme si 10 000 géants tous ensemble avaient fait « ouf !» et je sentis qu'un choc mat et sourd venait m'endolorir soudainement les côtes. Il n'y avait plus aucun doute, j'étais en l'air et mon corps décrivait une courte parabole. Mais si courte qu'elle fût, elle suffit à faire naître en moi plusieurs pensées, et autant que je me le rappelle, dans l'ordre suivant. Impossible que ce soit le charpentier. Qu'est-ce que c'est? Quelque accident? Un volcan sous-marin? Le charbon? Des gaz? Je vais tomber dans le panneau arrière. Je vois du feu là-dedans.